Suite de l'émission Plume en liberté au sujet du patois par Isabelle Ruff, Radio Suisse Romande, espace 2.
Si je dis le son 1, i matin, le matin, i 1, le vin, en français ça n'existe pas. Le son o, ça existe en français le o devant deux consonnes. Mais si je l'emploie en fin de mot, être d'accord, être d'accord. Comment traduire ce O? Donc nous écrivons O conventionnellement avec un tréma. Mais il faut le savoir. Hein. Alors moi, pour écrire ces contes, j'ai adopté la même graphie. Je dis bien graphie et non pas phonétique.
Gaston Braguet, vous avez pratiqué de la même façon?
Oui, effectivement, dans le canton du Jura, nous avions une personne qui a fait des recherches et qui s'est donné beaucoup de peine pendant 20 ans, c'était Simon Vatré, qui travaillait à Genève à l'époque, et qui a fait lui aussi un glossaire avec une graphie très particulière. Chez nous, dans notre langage, nous avons les donc le CH mouillé, comme « choulé »,« chouché », »,« inchou », et la différence entre le « ch » et le « che », dans ce glossaire, c'est que le che, ben, s'écrit comme en français, ch, et le che, ch, et se prononce che. Et il y a une autre difficulté, ou tout au moins subtilité, qui a été maîtrisée, c'est le ye. Nous n'avons pas le ye i2l, le ye, dans notre patois, c'est tout simplement y. Y se dit, ce sont les deux particularités de la graphie que nous retrouvons donc chez Vatré. C'est avec cette graphie-là que j'ai écrit mes textes.
Professeur Christol, cette graphie, elle est également utilisée au centre ou bien vous avez une notation phonétique?
Pour les besoins scientifiques, nous sommes obligés de travailler avec des transcriptions phonétiques. Nous nous rendons bien compte que cette transcription phonétique, elle est inaccessible, comme le disait Monsieur Prat tout à l'heure, au commun des mortels, mais étant donné que nous travaillons avec la bande sonore, le patoisan a à sa disposition la langue vivante et nous fournissons aux utilisateurs une traduction littérale en français. Donc, avec la bande sonore, le geste qui est conservé, vous voyez le locuteur à l'écran de l'ordinateur, et une traduction littérale, donc un sous-titrage simultané, si vous voulez, il est possible d'accéder à l'information linguistique. Et le linguiste qui a besoin d'une traduction très précise, va trouver la transcription phonétique. Nous ne pouvons pas, évidemment, dans notre travail, lorsque nous travaillons sur une vingtaine de communes valaisannes où, dans chaque vallée latérale du Rhône, on a adopté d'autres conventions orthographiques, chaque vallée, chaque village presque, a développé ses propres spécificités, nous ne pouvons pas travailler avec cette multitude de systèmes orthographiques. C'est l'expression, là encore une fois, du manque d'unité et de centre politique qui est imposé une école en patois. Si on avait commencé, si les évêques de Sion à un moment donné avaient décidé d'écrire le patois, tout le Valais écrirait le même patois. Mais ceci ne s'est jamais passé, la pression. Le Valais a très longtemps maintenu le latin et du latin il a directement passé au français.
Madame Chulet,
pour l'association des patoisans de Suisse romande, pour les patoisans et les enfants qui participent en Valais d'Ost au concours Serlogne, on peut naturellement pas faire de la phonétique et on n'a pas les moyens actuels. On peut donner une petite cassette avec, etc. Mais pour transcrire, pour garder sur le papier, il a bien fallu faire une graphie très simplifiée partant de l'orthographe française, plus ou moins. Et là, je crois que l'important, il faut se rendre compte, les gens doivent pouvoir le lire. N'importe qui doit pouvoir l'écrire et il faut être conscient que même avec une bonne transcription phonétique, celui qui n'est pas de l'endroit ne lira jamais juste. Donc, si la lecture est accessible pour le commun des mortels patoisans, celui qui est de l'endroit, il le dira juste et l'autre le dira à peu près, mais il le comprend.
Pourquoi est-ce que le romanche a survécu dans ses différentes formes, quoiqu'il ait aussi tendance à disparaître? Pour des raisons politiques?
Le romanche a eu la chance... Alors là, vous m'entraînez sur un tout autre terrain. Le romanche Donc, il a d'abord eu la malchance de perdre son centre culturel Coire. Coire a passé à l'allemand avant la Réforme. Mais au XVIe siècle, au moment de la Réforme, et immédiatement après, à la contre-réforme dans les régions catholiques, les Romanches ont commencé à écrire, à traduire la Bible et à traduire les œuvres, les publications destinées aux croyants dans les différents parlers des vallées. C'est un mouvement au XVIe siècle qui trouve beaucoup de parallélisme en Europe occidentale. C'est au XVIe siècle que les Gallois commencent à écrire leur langue, que les Basques commencent à écrire leur langue. Et à ce moment-là, les Romanches ont attrapé le train. Et depuis le XVIe siècle, on écrit le Romanche. Il y a donc une vieille implantation d'une tradition écrite qui est cautionnée d'ailleurs par le prestige des publications religieuses. Donc ce sont des pasteurs qui ont donné au Romanche de Langadine, par exemple, une forme écrite qui a été adoptée. Ce sont des ecclésiastiques avec des centres ecclésiastiques comme celui de Dizentis qui ont donné à leur vallée une tradition écrite. En Suisse romande, il n'y a jamais rien eu de comparable. Donc, la Suisse romande, au moment de la Réforme, et d'ailleurs déjà avant, il n'y a jamais eu même pas la tentation d'écrire autre chose que le français. Il y a bien des tentatives très locales, épisodiques, des pièces de théâtre. Au XVIe siècle, à Vevey, on a des fragments de pièces de théâtre en dialecte de Vevey, mais ce sont toujours des tentatives très locales. Il n'y a jamais rien eu de plus.
Mais qu'est-ce qui a manqué à la Suisse romande pour que ces patois se constituent en langue?
N'oubliez pas que le pays de Vaud était bernois. Que Neuchâtel parlait un autre patois. Que le Valais et Fribourg, le Valais surtout, ont gardé pendant très longtemps, tous les documents valaisans sont rédigés en latin. Donc il n'y a pas d'unité et il a manqué probablement aussi des personnalités qui est marqué, un auteur marquant, un Rabelais, ou comme en Italie, un Boccace, un Dante, qui ait créé une œuvre. Là encore, il n'y a pas eu, les auteurs de l'espace francophone ont tout de suite eu recours, depuis les auteurs du XVe siècle, ils ont tous eu recours aux Français. On ne revient pas en arrière.
Et non, justement, en écoutant Gaston Braillet, je me demandais comment les patois sont capables d'intégrer des néologismes. Alors, bien, stop est resté stop, et puis on a reconnu un ou deux mots, mais vous créez, les patois sont capables de créer des mots pour les choses nouvelles?
Ah, certainement, et les patois, donc, il faut se retrouver, mais il nous faut de temps en temps des philologues tout de même, et puis, il faudrait une assemblée de philologues, des techniciens, comme pour le français, face à l'anglais américain, pour essayer de trouver des mots qui correspondent, parce que depuis l'arrivée de l'industrie, au milieu du 19e siècle, les choses ont été très difficiles. Le patois est un langage du paysan, de la terre, des métiers de la terre, et à un certain moment, les mots n'ont plus suivi. Et ça a été là, la rupture. Alors bon, il y a bien les bonnes volontés qui ont tenté de faire quelque chose, mais c'est de là à trouver véritablement l'essence profonde du langage, c'est très difficile. Donc il faut que les dialectologues, que les linguistes, et puis que les connaisseurs techniques puissent se retrouver pour... Mais cela, c'est une histoire à laquelle que j'espère beaucoup, mais à laquelle je ne crois pas.
Il y a des... Oh, pardon.
Si vous permettez, en tant que linguiste, l'emprunt à une autre langue ne me fait pas du tout peur. Toute langue qui vit est obligée de s'enrichir, d'adopter des termes nouveaux. Lorsque les technologies changent, il y a des mots qui viennent avec. Donc, que nos patois... je crois qu'il faut cesser de croire à la chimère du patois pur. Le patois pur n'a jamais existé. Il a toujours été en contact avec les langues voisines. Il a toujours pompé des innovations. Il a pompé des mots du village voisin par mariage. Il a pompé des mots des langues de culture avec lesquelles il est en contact. Donc, que le patois adopte et intègre et phagocyte des mots français, tout comme le français est capable de phagocyter des mots anglais, moi, ça ne me pose aucun problème. C'est la preuve même, lorsqu'une langue est capable d'intégrer des innovations, c'est la preuve qu'elle vit.
Madame Choulet, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Moi, je dirais que c'est le signe de la vie quand un patois est encore capable de phagocyter, comme dit le professeur. Mais quand on pense au patois de l'Inde, Il a laissé tomber tous les L, initiales ou intervocaliques, tous les L ont disparu, tous les V ont disparu, il n'y a plus ces deux consonnes. Et quand est arrivé 1857, le chemin de fer jusqu'à Sion, le patois de Nîmes a découvert la okomotille. Il a encore été capable de laisser tomber le L et le V de la locomotive, n'est-ce pas? Et le patois d'Isérable, ce qui est le village d'à côté, à la fin de la guerre, est arrivé avec le téléphérique qui apportait l'ouverture vers la plaine, est arrivé transporté sous le téléphérique la première Jeep. Et elle est devenue la Jeep. Donc, ils avaient encore la force de garder le mot et de le phagocyter, comme vous dites, en l'adaptant aux formes du patois même. Je trouve ça merveilleux. Et aujourd'hui, bien sûr, que on dit OK et on dit pas, on l'adapte plus.
Il y a du rock et du rap en romanche. Est-ce que ça existe en patois?
Je pense pas.
Il n'y a plus assez de jeunes. Pour pratiquer le rock et le rap. Donnez-nous les jeunes, vous aurez du rap en patois.
Il y a tout de même suffisamment de jeunes pour danser ces airs et puis ces musiques, mais peut-être qu'en dansant, ils parlent moins que nous. Et c'est la raison pour laquelle on n'a peut-être pas trouvé le mot qui convient. Les savoir, dans quelques années, peut-être que les choses changeront.
En tout cas, en écoutant Gaston Braguet tout à l'heure évoquer la vie paysanne, je me suis souvenu d'un article paru récemment dans le quotidien Le Temps sur Madame Gisèle Panatier, linguiste que je pense vous connaissez tous, qui a fait une thèse sur le parler des Volaines et qui, pour l'article, a choisi de poser en photographie en costume. Ce qui veut bien dire donc que le patois est lié à un mode de vie archaïque, à toute une tradition. Professeur Christol, vous n'êtes pas d'accord?
Je dirais que c'est très particulier pour Évolène. Le patois est parfaitement adapté à n'importe quelle situation de la vie. Et les jeunes valdôtains, encore patoisans, que je connais, que je fréquente, ce sont des personnes modernes, parfaitement intégrées dans notre civilisation actuelle, tout en vivant dans leur patois valdôtain. Donc, patois, pour moi, ne rime pas à archaïté. Mais il y a eu des régions où on a commencé à identifier le patois avec un mode de vie désuet, et c'est sans aucun doute une des raisons pour le rejet du patois de la part de certains jeunes. Donc, je trouve qu'il est extrêmement regrettable qu'on veuille identifier le patois à une civilisation rurale qui n'est plus la nôtre. On voit très bien dans d'autres régions de notre pays que parler patois n'a rien à voir avec un mode de vie désuet d'autrefois.
Jusqu'ici, nous avons monopolisé la parole, mais peut-être la salle a-t-elle des questions ou des contributions à apporter à ce débat. Si vous levez la main, nous vous apportons un micro pour vous permettre de vous exprimer.
Il aurait fallu annoncer ça tout à l'heure pour que les gens puissent réagir, puissent réfléchir.
Eh bien, il y en a qui réfléchissent vite. Merci.
Oui, je voulais adresser une petite question à Monsieur Christol, parce que je suis venu ici non pas tellement pour les patois, bien que je trouve le travail fait et exposé ce soir très intéressant, mais pour entendre les quelques phrases, questions et réponses qui ont été dites sur le romanche. Il se trouve, je suis un homme bizarre parce que je suis peut-être le seul Neuchâtelois, non, peut-être il y en a une dizaine en tout, qui reçoit dans ma boîte aux lettres la Quotidiana, donc le quotidien en romanche, parce que j'avais été curieux dès ma retraite d'aller suivre des cours de romanche à Fribourg. Alors, la question que je voulais vous poser, Monsieur Christol, parce que je crois que le peuple suisse en général commet une petite erreur de diagnostic, est-ce que le romanche est un patois?
Si vous permettez, de répondre le français est un patois. Donc le romanche est autant patois que le français. Je prends les choses à rebours. Permettez-moi d'abord de dire une chose sur le mot patois. Il est extrêmement malheureux. C'est un de mes étudiants le savent, c'est un de mes chevaux de bataille. qu'en français, nous ayons un terme pour désigner ces parlers qui aient des connotations historiquement négatives. Le mot patois dans la culture francophone est associé à la grossièreté, à une culture paysanne lourde. On constate qu'au XVIe siècle, les auteurs de la Pléiade, qui ont une attitude positive envers les langues régionales de leur pays, utilisent le terme savant, parlent de dialecte. Ceux qui sont contre les langues régionales, dès le XVIe siècle, utilisent le mot patois. Or, je sais bien que nous avons en Suisse romande des fédérations de patoisans romands. Je sais bien que nos patoisans actuels, en général, sont fiers de leur patrimoine. Ils ont raison de l'être. Mais les non-initiés, et j'ai un étudiant qui vient de faire une enquête à ce sujet dans le canton de Neuchâtel, il vient de constater que même en Suisse romande, le commun des mortels a des associations négatives à l'égard du terme de patois. Donc, je préfère ne pas parler de patois. Lorsque vous dites que le romanche, est-ce que c'est un patois ou non, le romanche est une langue de plein droit, comme le nindar est une langue de plein droit, comme ma langue maternelle, le zurichois, est une langue de plein droit, pardonnez-moi.
Une autre question ?
Ou remarque ?
Moi, je suis arrivée un peu ici par hasard, je suis pas linguiste, mais en entendant Madame Chulet dire... Ah, on a eu le mot locomotive et maintenant on dit locomotive. Est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'être un peu anarchiste, un peu entre guillemets révolutionnaire et de vous ériger en fait un peu contre l'ordre établi en faisant une espèce d'opposition en fait à une évolution de la langue?
Oh, certainement pas. Tout au contraire, là, vous m'avez mal comprise. Je voulais simplement dire qu'à un moment où le patois était vivant, il était encore capable de prendre les mots et de les adapter à sa manière de prononcer ou de dire. Mais je dois dire que moi-même, en rédigeant des travaux sur le patois, je le fais surtout du point de vue ethnographique, du point de vue lexicologique, et je suis très heureuse de pouvoir suivre un ordre d'idées qui avait été donné par mon professeur Barlois, qui était lexicologue, qui ne montre que toutes les choses archaïques, tout ce qui concerne la campagne, ce qui concerne l'élevage, etc., sans le mépriser, ça arrive tout à la fin. Et je suis contente parce que tous ceux qui ont travaillé sur le patois, que ce soit des amateurs ou des scientifiques, ont d'abord commencé à rechercher les particularités, à rechercher la culture du chanvre, parce qu'on ne la connaît plus, à rechercher les superstitions, justement un peu dans l'idée pour montrer que le patois, c'était peut-être une chose moindre. Et je ne suis pas du tout de cet avis. Moi, je trouve qu'il faut montrer que le patois, il est capable de tout dire. Alors, on vous dira, c'est pas vrai, le patois, il ne peut pas faire de la philosophie.
C'est pas vrai.
Alors, je dirais, comme dit Monsieur Christol, je dirais, le français, lui non plus, ne sait pas faire de la philosophie. Parce que pour faire de la philosophie, il a eu besoin des mots grecs. Et pas des mots français. Donc, hein? Non, alors là, je défends absolument le côté... Je ne dis pas que je méprise l'agriculture ou le paysanat, ou j'ai récolté tout ce que j'ai pu là-dessus, mais c'est pas ça qui est l'important. Ce qui est important, c'est de montrer la force et la, je ne sais pas comment il faut dire, la gloire du patois. Le patois est une langue, et une langue qui peut tout aussi bien tout dire, comme le dit le français, l'anglais ou une autre langue. Excusez-moi de m'être emporté, mais
c'est une belle défense du patois. À peu de gens à la fois, dit un interlocuteur. C'est-à-dire que vous voulez dire que c'est une langue dont l'auditoire est limité. Il peut tout dire, mais à peu de gens.
Oui, oui.
C'est sa fonction même.
Oui.
Justement.
La fonction locale.
C'est la fonction locale qui prime. Et on le voit bien actuellement. Non, non, je vais pas faire de la politique. Non, je n'insiste pas.
Mais oui. Mais oui, non.
Ce n'est pas linguistique. Je reste dans mon domaine.
Moi, je pense pour dire à beaucoup de gens à la fois, nous avons l'anglais qui devient une langue absolument véhiculaire, une sorte d'anglais général qui servira à dire à tout le monde à la fois, et que peut-être à partir de là, les autres langues peuvent se diversifier à l'infini.
À partir de là, le français, bon, je ne suis pas prophète, mais risque bien de prendre un jour le chemin des langues régionales de France que le français auparavant a écrasé.
Monsieur.
Oui, au sujet de ce que vient de dire madame, là, j'espère que vous avez tous fait cette expérience. Quand vous entendez des gens qui parlent même en français, écoutez bien la façon dont ils déforment les mots. Je prends un exemple dans le Jura, parce que je viens du Jura. Mais dans le Jura, vous connaissez tous les ermites. Eh bien, dans le Jura, on ne dit pas « ermite », mais on dit « ermitre ». Donc, il y a une quantité de jurassiens qui ne prononcent pas le mot « ermite », mais qui prononcent le mot « ermitre ». Ça, c'était pour renforcer un petit peu l'idée que donne Madame Chulet au sujet de cette déformation des mots. J'aurais une autre question. Je me suis préoccupé du patois depuis très longtemps, et je me suis toujours demandé pourquoi cette espèce de frontière entre la langue douille, comme vous avez dit, Monsieur Christol, moi je dis plutôt oil, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est juste, c'est et puis au sud de la langue d'oc, il y a une espèce de frontière qui s'est faite, qui va de la région de Bordeaux, et puis qui vient jusque vers Neuchâtel, dans la région de Neuchâtel, qui traverse le Jura, dans la région de Moutier. Moi, j'ai toujours compris que cette séparation entre cette langue d'Oyle ou d'Ouï et la langue d'Oc était due à une raison politique. C'est-à-dire que, pour moi, ça vient de la création de la province narbonnaise par les Romains, qui avaient fait cette nouvelle province, qui allait en gros, qui venait du sud de la France, qui partait un petit peu au nord de Toulouse, et puis qui arrivait jusque vers chez nous. Et comme les Romains sont arrivés chez nous, eh bien, le Nord a été un peu plus réfractaire au latin, si bien qu'il y a eu cette espèce de frontière là, qui est tout à fait mal délimitée, mais enfin, qu'on voit dans des cartes de linguistique. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi il y avait eu, est-ce qu'il y a une raison politique pour qu'il y ait le fameux franco-provençal? Je pensais toujours, moi, que ce qui était au sud de cette ligne Bordeaux-Neuchâtel, pour simplifier, c'était la langue d'oc. Et puis voilà qu'il y a un franco-provençal et je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi, dans cette région-là, dans la région de Genève, de Grenoble, etc., Lyon, par là, il y a en fait une langue mais qui a une autre souche que les autres langues d'oc. Est-ce que, Monsieur Christol, vous pouvez me donner des indications à ce sujet, s'il vous plaît?
Je vais essayer d'être très bref, parce que vous me demandez un cours de dialectologie que je ne vais pas pouvoir vous donner ici. Mais je dirais tout d'abord, en reprenant quelque chose que j'ai appris chez mon propre maître, qui était Monsieur Chulet, que le français, c'est un franco-provençal qui a mal tourné. C'est-à-dire que lors de la formation des espaces linguistiques en Gaule, dans un premier temps, la séparation qui partage la France en deux, espace d'oc et d'espace oïlique au nord, notre région, le franco-provençal, est allée avec la langue d'Ouï. Donc la séparation est plus profonde entre nous et les régions d'oc qu'entre nous et l'espace français. Ensuite, il y a eu une deuxième séparation qui s'est produite environ vers le 9e siècle, sans aucun doute pour des raisons politiques, qui fait que le franco-provençal, à partir de ce moment-là, n'a plus évolué avec le français. Ou autrement dit, les centres politiques de la France du Nord se sont déplacés. Tout d'abord, il y a eu Lyon. Ensuite, il y a eu, dans le Nord, il y a eu Trèves. Et ensuite, il y a eu, bien plus tard, Paris. Donc, à un moment donné, l'espace franco-provençal, le nôtre, s'est détaché du reste des régions d'Ouïe et a commencé à se développer pour son propre compte. C'est ainsi que s'est formée une frontière très lentement, d'ailleurs qui a reculé au cours des siècles. On suppose qu'à une période antérieure à tout document écrit, l'essentiel de la Franche-Comté faisait partie de l'espace franco-provençal. Et ensuite, sous la pression constante des parlers de type français, la frontière a reculé jusqu'à la frontière que vous avez nommée et qui correspond d'ailleurs à la frontière ecclésiastique entre les évêchés de Besançon et de Lausanne au Moyen-Âge. Donc il y a une série de facteurs humains. Il ne faut pas oublier que les hauteurs jurassiennes étaient largement dépeuplées, enfin, étaient encore peuplées de forêts, si vous me permettez de dire ainsi. Donc il y avait là une sorte de frontière naturelle qui ne s'est plus beaucoup déplacée par la suite. Et à la fin de cette histoire, c'est la réforme dans le sud, dans le Jura sud, qui a bloqué jusqu'à un certain point la progression ultérieure des parlers de type français vers le sud. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Monsieur,
attendez deux secondes, s'il vous plaît.
Vous entendez. Oui, madame, messieurs, j'ai été très ému en entendant monsieur Braillet parler le patois joulot qui rappelle notre enfance. Vous avez parlé, madame, de rock et de rap. La question que je me permets de poser à ces messieurs, est-ce qu'il existe encore des compositeurs, auteurs-compositeurs, qui continuent la tradition de la chanson patoise, soit en Valais, soit dans le Jura?
Nous avons donc en Valais Radio Rhône qui, chaque dimanche soir, fait une émission de patois. Généralement, ce sont des conteurs. Il y a aussi des chanteurs. Mais personnellement, donc, je ne connais pas spécialement, donc, des compositeurs.
Madame Chulet?
Monsieur Prat le sait parce qu'il a été un certain temps bibliothécaire. Nous avons en Suisse romande passablement de recueils de chants qui ont été transcrits à la main. Et 90% de ces recueils, c'est chansons françaises, nouvelles chansons françaises, encore nouvelles chansons françaises. On a à Bâle, l'Institut pour l'étude de la musique populaire et des chansons populaires. Ils ont refait tous les enregistrements qui ont été faits dans le temps. Il n'y a presque rien d'autochtone et presque rien en patois. Dans aucune, que ça soit la langue d'Oyle ou franco-provençale, nous n'avons pas de tradition de ce côté-là. Et la tradition musicale est très mince.
Gaston Braillet, c'est
oui,
pareil.
Pour répondre à monsieur Béda, je dois dire que dans les deux recueils que j'ai publiés, je me suis employé à créer 5 ou 6 chansons. Donc, paroles et musique. Qu'est-ce que c'est que la musique patoise? La musique patoise est une musique populaire pas très recherchée, avec un rythme simple, à l'image des veillées que nous vivions. Peut-être qu'il y a une évolution qui doit se faire, mais c'est cela. Et je le constate parce que lorsque les étrangers à la joie, au Jura, viennent chez nous, alors j'aime mieux vous dire qu'ils en redemandent. Ils ont un plaisir exceptionnel de se trouver dans une ambiance très simple, où on chante sur un rythme très facile, soit sur un tempo de valse, un tempo de marche, quelque chose de très simple, avec des paroles patoises, et j'ai estimé que dans ce que je souhaitais laisser à mon pays, je devais aussi lui laisser des airs. Il en est un, notamment, qui s'intitule dans le premier recueil « Vétian l'Urkali »,« Vivons le moment présent ». Et un autre, dans ce recueil ici, dans le deuxième, qui s'intitule « L'aile au vrai ». L'aile au vrai, c'est la veillée. Alors, ce sont des chants sans complication aucune. Il suffit de les chanter pour ceux autour de la, qui sont autour de la table, en les étant, en entendant fredonner immédiatement, et vous reprennent le refrain avant que vous ayez terminé et repris le reste. C'est ça, les chants patois. Naturellement que c'est pas des subtilités, disons, de musique exceptionnelle, mais c'est, ça a un cadre, ça a une raison, ça rapproche les gens, ça rappelle une époque, ça redonne envie de vivre ainsi. Vous les jeunes qui vivez une autre époque, et combien bousculés, et combien souvent vous êtes seuls, peut-être qu'un jour vous en redemanderiez si jamais vous assistiez à une soirée de ce type.
Bon, voilà qui ferait une très belle conclusion, mais puisque nous sommes à Neuchâtel, siège du Centre de dialectologie et d'études du français régional, et bientôt lieu de l'Expo 01, je voudrais demander au professeur Christol si les patois auront leur place à l'Expo.
Nous faisons tout pour leur donner une place, c'est-à-dire que nous sommes en train de concocter un projet pour 2001 qui donnera une place à toutes les langues de Suisse, dans leur extraordinaire diversité, à tous les romanches, à tous les tessinois, à tous les romans, et dans la mesure du possible aux patoisans, et à tous les alémaniques aussi. Donc, rendez-vous en 2001 à l'Arte-Plage de Morat.
Merci. Mais il nous reste, il reste à prendre congé, à vous remercier de votre attention, à remercier nos interlocuteurs, Rose-Claire Chulet, Arsène Prat, Andrés Christol et Gaston Braillet, remercier le quotidien Le Temps qui nous a soutenus et Payot Libraire qui a préparé la table de livres touchant à ce sujet que vous trouverez là derrière nous. Et puis, je vous rappelle que cette émission, vous pourrez l'entendre, en tout cas en partie, car nous avons dépassé le temps strict de l'émission, vous pourrez l'entendre samedi après-midi dès 18h20 sur Espace 2. Radio Suisse Romande Espace 2. Et puis, vous pouvez continuer cette conversation hors micro, autour d'un verre. Merci aussi à Chauffage Compris qui nous a accueillis ce soir et puis à Pierre Rosin qui a assuré la technique. Merci beaucoup.